rechercher les fosses communes des Juifs victimes de la Shoah par balle dans un pays plus grand que la France n'est pas chose facile. Les témoins sont de moins en moins nombreux et les lieux des assassinats de masse ne sont évidemment pas marqués d'une pierre blanche. C'est donc un travail de longue haleine que nous présente le père Patrick Desbois.
Tout d'abord, il y a un travail avec des chercheurs. J'ai des chercheurs qui travaillent pour moi dans les archives soviétiques, car depuis que le mur est tombé, on a accès aux archives soviétiques et aussi dans les archives allemandes, de la justice allemande. Muni de ces deux archives, je sais déjà dans un village si apparemment ils ont tué 5 juifs ou malheureusement parfois, comme à Kovel, 10 000 juifs. Nous sommes une équipe de 11 personnes, moitié française, moitié ukrainienne. Et dès que l'on arrive dans un village, dès qu'on voit une personne âgée, ma traductrice descend et lui dit « Vous étiez là, madame, pendant la guerre ?» Et si elle répond oui, tout simplement, elle va lui dire « Alors vous allez pouvoir nous aider. » Et puis ils se rendent chez un témoin qui était là à l'exécution, ou bien sinon on va chez le curé de la paroisse, qui de façon très simple va demander aux gens, ceux qui étaient présents aux exécutions, « Attendez, on va vous demander ce qui s'est passé. » Et les gens le font très simplement, il y a une très grande bonté de cœur en Ukraine, et un côté très simple. Et à partir de là, moi j'apparais, on me présente, j'explique ma démarche comme prêtre, et puis, si la personne est d'accord pour déposer devant l'histoire, comme l'on dit, alors les caméras arrivent, et là on recommence, je dirais, une reconstruction du crime auquel elle a assisté, très calmement. Dans le même temps, on fait une recherche balistique pour prouver sur le sol de la fosse ou à côté que les faits sont avérés, et notre but aussi, c'est d'établir la vérité et puis que ces fosses soient protégées, car malheureusement, elles tentent encore des maraudeurs qui ouvrent les fosses pour retrouver les dents en or.
Vous n'accédez jamais en soi à la fosse commune, c'est toujours par un faisceau d'indices que vous déterminez l'emplacement de ce lieu.
Oui, dans la tradition juive, il est interdit d'ouvrir les fosses. Nous l'avons fait une seule fois sur demande d'un musée et en accord avec des autorités rabbiniques orthodoxes, nous avons ouvert un endroit où 10 témoins avaient dit qu'ils avaient vu des exécutions et où rien n'était marqué dans les archives. Et en fait, nous avons trouvé 17 fosses communes, dont l'une contenait 450 femmes et enfants qui avaient été quasiment enterrés vivants, avaient simplement été blessés ici et là d'une balle. Nous l'avons fait pour les preuves. Malheureusement aussi, nous trouvons beaucoup de fosses ouvertes par les voleurs d'eau. Parfois, beaucoup d'ossements sont sortis à l'extérieur.
Est-ce que votre travail consiste simplement en la localisation des fosses ou est-ce que vous déterminez le nombre de personnes qui ont été tuées à cet endroit et qui sont enterrées dans ces fosses ou pas? Et est-ce que vous déterminez également leur identité?
Nous savons que la fosse commune est juive. Nous trouvons d'autres fosses communes comme de victimes tziganes qui ont été tuées par les Allemands ou bien de handicapés mentaux qui étaient fusillés aussi devant les orphelinats, par exemple, devant les hospices. Notre but, effectivement, est de délimiter la fosse. Nous connaissons plus ou moins le nombre de victimes par les commissions soviétiques et aussi par les comptes rendus allemands. Car les comptes rendus allemands sont très détaillés et il y avait un compteur chez les Allemands qui comptait les Juifs avant de les tuer et qui envoyait un télégramme chaque soir. Ces télégrammes existent et donc nous pouvons retrouver, en confrontant les télégrammes, les archives russes et ce que nous trouvons sur le sol, une approximation assez précise du nombre de victimes. Parfois, nous savons aussi des tombes de gens personnels. Par exemple, dans un village, il y avait une seule famille juive et la maman avait été tuée par un tireur. Et la famille errait dans le village en mendiant. Et de désespoir, ils sont allés à la Gestapo se rendre. Ils ont été fusillés, le père avec ses 5 enfants, au bout du village. Ils ont dû creuser leur fosse et s'allonger dans la fosse. Et tout le village se souvenait et du nom du père de famille et du nom des enfants. Dans ce cas-là, évidemment, c'est une tombe personnelle, familiale, à laquelle on peut rétablir une identité complète.
Vous disiez que les témoins de l'époque qui sont encore vivants n'ont quasiment aucune difficulté à vous parler. C'est tout de même surprenant, non? Ou est-ce qu'au contraire, cela ne vous étonne absolument pas?
Non, cela ne m'étonne pas. Lorsque je prépare mon équipe à repartir en Ukraine, je dis toujours, n'oubliez jamais qu'ils nous attendent. Et puis vous savez, très souvent quand même, ils ont l'encouragement des prêtres qui leur disent, il faut dire la vérité, il faut parler. Ces gens étaient enfants, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Ils sont très pauvres, ils habitent dans un village où personne ne passe jamais. Et souvent, ils sont très touchés qu'enfin, quelqu'un vienne leur demander quelque chose. Souvent, je leur dis, mais vous avez déjà parlé? Ils disent non. Et je dis, pourquoi? Parce qu'on ne nous a jamais rien demandé. Et une dame me disait, j'ai rêvé toute ma vie de le dire à quelqu'un. Donc, je pense que ces gens-là portent ça dans leur mémoire, sont âgés maintenant, ils ont entre 75 ans, 90 ans, et ils voudraient que ça se sache, ils voudraient aussi que leurs amis aient enfin une tombe. Très souvent, lorsque l'on quitte le village, ils nous disent, promettez-nous de faire un mémorial pour nos amis. Nous retrouvons globalement les petits amis d'enfance des Juifs, en fait.
Quels sont vos rapports, justement, avec les Juifs? Parce que vous êtes un prêtre catholique, et vous travaillez sur des Juifs.
Cela a été une expérience importante. Au début, cela a un peu surpris. Et puis, nous avons été tout très vite encouragés par les autorités religieuses en France ou au niveau international. Aussi, je suis très vite allé voir, au début de mes travaux, le grand rabbin d'Ukraine, le grand rabbin Bleich. Et puis, localement, chaque fois que nous venons, nous allons d'abord voir les communautés juives, s'il y en a, et savoir aussi ce qu'elles savent et leur faire savoir notre recherche. On est toujours, je dirais, reçus dans la plus grande simplicité. Vous savez, en Ukraine, les gens sont tout simples, les juifs comme les catholiques et comme les orthodoxes. Et pour eux, ça leur paraît tout à fait normal qu'un prêtre s'occupe de cela. Ça se vit dans la simplicité et le respect, puisque à la fin, évidemment, lorsqu'il s'agit d'une prière, je fais venir le rabbin local qui fait la prière traditionnelle, le Kaddish, avec 10 autres juifs.